Ça sera notre dernière table ronde dans le cadre du marché de la poésie, puisque le marché de la poésie s'achève ce soir. C'est une table ronde consacrée au statut du poète. Et je vais laisser la parole à Benoît Connor, son températeur, pour nous présenter ses invités et pour entamer la discussion.
Bien, bonsoir. Donc, on va commencer tout de suite la présentation des invités, très rapide. De la droite vers la gauche, qui est le mouvement naturel de la pensée. Jean-Michel Espitalier, puis Gabriel Mouéné Okunji, Caroline Sago Duvourou, Laurent Grisel. Voilà. Bon, il devrait être question, semble-t-il, du statut du poète, forme de table ronde qui répond plutôt, je dirais, à la quadrature du cercle. À savoir qu'en plus, on est... Non, vous êtes quatre, oui. Vous êtes quatre, donc c'est bon, on a les quatre coins. C'est parfait, on peut inscrire le cercle dedans. Je pense pas que la notion, ou les notions mises en jeu, et vous me direz ce que vous en pensez, soit très aille de soi plutôt. Pourquoi poète? Pourquoi statut? Pourquoi un statut du poète? Pourquoi... Ah, pardon. On m'entend pas sans micro?
Non, pas du tout.
Non? Bon, ah, pardon. J'ai horreur des micros, mais tant pis. Je pense pas que... Enfin, que ces notions-là, qu'elles soient prises positivement ou négativement, soient aussi évidentes que cela. Elles ne se poseraient sans doute pas sinon. Simplement, je poserais peut-être pour commencer une question simple. Est-il question de statut du poète ou de fonction du poète? C'est-à-dire, un statut a une dimension, je dirais, plus sociale, plus institutionnelle. Il est reconnu. Quel est votre statut dans la société? Et ceci ne correspond pas nécessairement à une fonction. Un statut a une durée durable, en quelque sorte, si j'ose dire, alors qu'une fonction peut n'exister que provisoirement. On peut très bien n'être poète que quand on écrit, et le reste du temps, être le monsieur qui passe dans la rue. Tout à fait. Comment? Ce qu'on est d'ailleurs. Donc, merci Caroline, à toi.
Ça marche, là ? Bon, oui, moi, je trouve que c'est... Déjà, j'aurais eu envie d'interroger la question, en effet. D'ailleurs, je me dis, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont mis cette phrase comme question, et je me demandais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête en disant le statut du poète. Parce que j'ai l'impression qu'on est terriblement infantilisé dans la vie, en grande partie par le capitalisme, mais par à peu près toutes tous les enjeux du marché, quel qu'il soit. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait appeler ce marché de la poésie marché du livre de poésie, la poésie étant gratuite et le livre un objet qui peut faire partie du marché. Mais donc je me dis que tout ce qui est statutaire est peut-être pas forcément faste pour un être humain qui aurait cette fonction plus ou moins de poésie, dans la mesure où il me semble qu'on écrit de la poésie, qui, n'oublions jamais, ne signifie que faire, c'est-à-dire qu'on est dans cet acte, que pour être plus libre. Et je me méfie des casiers. Je ne vois pas ce qu'un être humain peut y gagner. Ce que je vois, c'est qu'un ouvrier ou un poète ou un n'importe qui en effet n'est poète qu'au moment où il écrit de la poésie, où il en dit, etc. Je ne vois pas... La seule chose que je vois qui serait intéressante, c'est qu'il y ait un peu moins d'injustice, c'est-à-dire que tout le monde ait de quoi simplement survivre, et celui qui voudrait écrire des poèmes écrirait des poèmes, et celui qui voudrait brasser les nuages brasserait les nuages. Et donc je ne vois pas tellement de statut pensable. Mais, en soi, d'une manière générale, de grand plaisir de la gratuité. La propriété intellectuelle étant pour moi une grosse erreur. Les droits d'auteur ne devraient pas être hérités. Je pense que Victor Hugo et Mallarmé avaient commencé à faire un travail sur justement une possible mutualisation des droits d'auteur une fois la personne morte, qu'on n'a pas continué. C'est très dommage pour la joie de vivre et pour l'espèce de presque devoir qu'on a tous, à mon avis, d'agrandir les espaces de gratuité. Voilà, donc c'est pour ça que je ne veux pas fuir la question que je ne comprends pas très bien, parce que comment mettre au point d'ailleurs un statut avec donc des lois de poètes, je ne sais pas du tout qui va décider qu'un tel est poète et pas l'autre, quoi, hein, bon. Voilà. Donc après, le problème du livre, de la littérature, de la fabrication du livre est un autre problème. Bon, voilà pour commencer, quoi.
Jean-Michel,
mais écoutez, moi ce qui m'interroge dans cette question, finalement c'est un peu le but d'une question, d'être interrogé par elle, c'est qu'en fait on pose pas cette question ne se pose pas pour un cinéaste par exemple, ou en tout cas très peu, et elle se pose certainement pas pour un maçon, pour un plombier, hein. On dit pas qu'est-ce que le statut du plombier. Et moi, il me semble que si ce statut flottant pose question, c'est parce que justement ce qu'il recouvre, ce qu'il assume, à savoir quelqu'un qui produit du poème, de la poésie, etc., la production donc, de cet objet, le poème, pose problème. Donc ça renvoie toujours, c'est une vieille marotte, mais ça renvoie, me semble-t-il, à la question des limites de la poésie et de son... Du coup, du statut de la poésie et de la définition ou d'une définition possible de la poésie. C'est-à-dire que si la question du statut du poète pose problème, c'est parce que ce qu'il fabrique pose problème en termes de définition. Et alors, moi, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué, c'est un texte de Roland Barthes sur Minot Drouet, qui est paru au début des années 50 dans les fameuses mythologies. Minot Drouet, cette espèce de fausse poète, enfin le mythe de la précocité, etc. Et Roland Barthes, il dit deux choses enfin, moi, qui m'ont beaucoup intéressé. La première, c'est alors ça concerne peut-être plutôt la poésie. Il dit que le problème de la poésie, c'est qu'en fait, les gens attendent les signes de la poésie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des espèces d'idées un peu préconçues par différents médiums, hein, l'école, etc. Et ce n'est pas du tout une accusation. Mais en fait, on a une sorte de fantasme de la poésie. Et que si ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ne correspond pas à ce fantasme, donc aux signes de la poésie, Roland Barthes, évidemment, il parle beaucoup de signes, on a l'impression d'être à côté du truc. Et il dit aussi une chose qui me paraît très forte. Il dit que quand Minot Drouet, alors remplaçons n'importe quel nom de poète par Minot Drouet, écrit le mot arbre, est un peu transformé par le statut qu'elle a. Hein. Donc c'est-à-dire que le producteur en fait est une sorte de, comment dire, en fait transforme le mot arbre, hein, pour Minot Drouet, et donc transforme le langage. Et je pense que c'est là où on arrive finalement à quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une définition et du poète, donc et de son statut, et de la poésie. C'est qu'en fait, c'est vrai que dans la mesure où on assume un statut de poète, tout ce qu'on touche devient de la poésie. Hein. Demain des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, si c'est Victor Hugo qui dit ça, c'est de la poésie. Si c'est le caporal-chef qui dit à ses hommes que demain, après la corvée de chiottes, il faut... Voilà. Là c'est pas de la poésie. Donc, c'est le locuteur, en fait. C'est l'endroit, en fait, de la parole qui va produire cette parole. Enfin, le statut, c'est de cette parole.
Oui. Est-ce que, dans le même temps, on ne pourrait pas dire que c'est quand même le lecteur aussi qui attribue
bien sûr,
le statut
bien sûr, bien sûr.
Parce que, même si ce n'est pas Victor Hugo... Mais le sapeur camembert du coin qui écrit « Demain des lobes à l'heure où blanchit la campagne », il est possible qu'un jour, ce soit le sapeur qui soit Victor Hugo. Parce que du même coup, c'est aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le lecteur, surtout dans la théorie de Barthes, c'est quand même plutôt le lecteur qui consacre la poésie
qui font
plutôt
de
que le poète.
Mais ça renvoie à Marcel Duchamp, enfin, au geste historique du ready-made un peu. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet ready-made, c'est-à-dire l'objet d'art, enfin le supposé objet d'art, en fait ne devient objet d'art que parce qu'il est signé par Marcel Duchamp. Moi, je suis très enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à la sociologie de la littérature. C'est parce qu'il est exposé dans un lieu qui a les signes de l'art, en l'occurrence contemporain, mais c'est aussi parce qu'il y a des regardeurs que la pissotière ou que la route vélo devient une œuvre d'art.
Gabriel, vous auriez à...
Oui, mais j'irai un tout petit peu dans le sens de mes deux collègues. Et l'interrogation, elle sied pour moi. Tout à l'heure, je marchais et je me suis dit, pourrait-on demander à un arbre quel est ton statut d'arbre? Mais bon, l'arbre, vous savez, son hypermnésie, la connaissance qu'il a de la terre et du ciel fait qu'il garde son silence. Il entend demander à Dieu quel est ton statut de Dieu. Alors, le poète, peut-être parce que, oui, on lui attribue peut-être une place qui demeure une place assez énigmatique. La question se pose, quel est le statut du poète? Alors, j'ai coutume de dire que je ne suis pas poète. Je suis un apprenti poète parce que pour moi, la poésie, c'est la vie. Et aucun humain ne peut circonscrire ce qu'est la vie. Mais puisque je suis là, il faut tenter une réponse d'apprenti poète. Je dirais que tout à l'heure, je prenais un café avec un mortel comme moi qui s'appelle Sémus, qui est un poète, Sémus d'Actine. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et Sémus m'a dit, à quoi ça sert de continuer tout cela, ce chemin? On ne comprend pas qui est la poésie, tout le monde. Ça sert à quoi? Et je dis, mais justement... C'est justement parce qu'il y a cette interrogation-là qu'il nous faut continuer à labourer ce chemin, puisque nous avons à dire. L'essentiel n'est pas de proférer des discours, mais peut-être de faire signe, tout simplement. Donc, le poète, pour moi, s'il faut poser la question du statut, il n'a pas un statut particulier. C'est un homme qui demeure homme ordinaire, parmi les hommes ordinaires. Le poète est celui qui garde en lui et qui doit être profondément humain dans les faiblesses de l'homme. C'est-à-dire que face aux dénivellations de la terre, ni le poète, ni quelqu'un d'autre n'a d'autre solution que peut-être de tituber, de tomber et de se relever pour poursuivre son chemin. Cependant, le poète est de ce que j'appelle... J'ai écrit dans un livre en disant que le monde entier repose sur les genoux d'une fourmi. Ce n'est pas de moi, c'est ceux qui m'ont appris à observer la lumière de la parole qui m'ont appris à... Mais lorsque je prends conscience que le monde entier repose sur les genoux d'une fourmi, vous voyez la fragilité qu'il y a. Et donc, la mission du poète, c'est d'être vigilant. Le poète est celui qui doit être vigilant, non pas la vigilance quotidienne, mais vigilant aux signes. Parce que la vie n'est douloureuse qu'aux frontières externes de la poésie, parce que le chant du poète est capable de nous aider à marcher malgré la blessure, à nous relever malgré la douleur. Et c'est cela le statut du poète, alors qu'il... Malgré tout, son chant, à l'instant où il faut proférer le chant, il donne à entendre, il donne à voir, il donne à donner l'élan à l'humain de pouvoir continuer ce chemin dont nous ne savons pas de quoi il est fait demain ou même dans quelques heures. Mais il faut le poursuivre. Je crois que c'est la mission du poète. Donc, j'ai toujours dit aussi que le poète n'est pas celui qui doit se situer du côté des sachants. Le poète n'a rien à savoir, il ne sait rien, justement parce que face au cosmos, face aux philosophes qui établissent des concepts, il suffit de regarder. Et le poète, c'est lui qui regarde ce qui doit être regardé et qui donne à en voir ce qui doit être à voir, qui chante le chant à l'instant du chant. Voilà, pour moi, c'est peut-être ça la place du poète. Et cette part de vigilance donc, m'amène à dire que finalement, ce qu'on attend de nous, c'est peut-être pas les discours, mais le chant, tout simplement. On dit au chant, au poète, alors assieds-toi là, chante-nous ton chant. Comme on disait à Homère, comme on disait, on ne leur disait pas d'établir l'ordre du monde, de proférer le discours, mais d'entendre ce qu'ils avaient à donner pour que la parole dite éclaire la part et donne des bulles d'émotion, ces bulles d'émotion qui permettront de circuler dans le sang humain qui fait entendre l'infini de l'univers. Hein. C'est ça la fonction de la poésie.
Oui, mais justement, enfin... On revient peut-être un peu au début, je demanderai à Laurent ce qu'il en pense, mais est-ce que vous avez fini justement en disant c'est ça la fonction de la poésie? Alors j'ai bien dit au début, est-ce que c'est le statut ou est-ce que c'est la fonction que l'on doit interroger? Je pense, en reprenant ce que disait aussi Caroline, c'est-à-dire que je pense que le statut effectivement est du côté de l'institutionnel, il est du côté de l'économique, il est du côté du social, comme il y a un statut par exemple des intermittents du spectacle. J'adore cette expression qui recouvre 36 métiers différents.
Oui, mais ce sont des entreprises.
Mais ce sont des entreprises. Oui, mais parce qu'il ne faut pas négliger non plus que ben, la poésie peut être aussi, entre guillemets, une entreprise. Attention, au sens, je dirais, d'entreprendre un livre ou autre. C'est une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un circuit commercial, etc. Et puis, il y a la fonction. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on pense. Laurent, qui, d'une certaine façon, dans son dernier livre, je trouve, a joué du statut du poète pour en illustrer la fonction. Je pense à Climat.
Merci, oui. Bon, d'abord, à chaque fois que je me fais traiter de poète, je sursaute. Parce que, manifestement, il y a un malentendu. Ce qui est entendu par là, généralement, c'est une statue, si je peux faire le jeu de mots, une position prééminente, une fonction unique et quasiment divine. Et donc tout ça, je le récuse, je le refuse. Je dirais même que j'écris contre ça et je ne suis pas le seul à avoir cette position-là. Alors maintenant, pour en revenir à la question qui est posée sur le statut du poète, je suppose que dans le cadre des états généraux de la poésie, il y a une question qui est posée, c'est celle de la visibilité de l'existence, de la reconnaissance des activités poétiques de tous ordres, édition, lecture, de toutes sortes de façons. Dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, ça nous ramène à l'époque. C'est-à-dire que le statut social du poète, de celui qui écrit de la poésie, de l'écrivain de poésie, change énormément selon les époques. Les écrivains de la Pléiade, ce sont des gens qui sont dans un milieu de noblesse, de cour, et ils ont un statut qui est lié à ce qu'on attend de leur part dans ces milieux-là, à ce moment-là. Les écrivains, dans les années 42-50, dit de la résistance, ils ont un statut qui est lié à une époque, qui est lié à un moment historique où il y a effectivement une lutte armée, une guerre civile en France, dans laquelle ils prennent part. Et il est impossible de dissocier le statut de poète qu'ils ont à ce moment-là de cette époque et de l'action qu'ils ont aussi en dehors même de la poésie. Donc la question qui se pose, si on passe aujourd'hui, la question c'est la question de notre époque. Notre époque, c'est une époque de crime, de masse. C'est une époque dans laquelle il y a entre 9 et 10 millions de personnes qui meurent chaque année de faim. C'est à peu près le bilan des victimes d'une guerre mondiale quelconque. Nous sommes dans une époque dans laquelle, vous le savez, les gens se noient par milliers en mer Méditerranée et ailleurs. On est dans une époque dans laquelle on vient d'élire un représentant chargé de détruire tous les systèmes de solidarité et de fraternité qui existent, avec un ministre du Travail qui est une personne qui a démontré toutes ses capacités chez Danone et ailleurs en poussant les travailleurs à l'épuisement professionnel et au suicide. Voilà, c'est cette époque-là dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une époque dans laquelle, en Grèce, les gens meurent faute de médicaments qu'on refuse de vendre à ce pays sous prétexte qu'il est endetté. C'est ça l'époque dans laquelle nous sommes. Et c'est aussi une époque dans laquelle il y a d'autres mondes qui existent, en même temps que des crapules néo-nazis font une quête pour réunir finalement 57 000 euros pour aller attaquer les navires qui sauvent des réfugiés en mer Méditerranée. En même temps, ici, dans cette ville, dans beaucoup d'autres, il y a des gens qui accueillent les réfugiés, qui les cachent, qui font avec eux les formalités administratives, etc., etc. Et donc, on est dans une époque profondément divisée, tout à fait double. Alors, je veux bien qu'on parle des statuts du poète, mais pour moi, dans cette époque-là, je ne veux pas dire par là que la seule poésie admissible serait celle qui nous parle des noyés. Pas du tout. justement, revenons à la question de la fonction de la poésie. Toutes les poésies, dès la sorte qu'elles sont humaines, humanisantes, ou même qu'elles nous confrontent à des réalités tout à fait fondamentales qui n'ont rien d'humain. Je pense que la poésie aussi doit être inhumaine et nous confronter à l'inhumain, au minéral, par exemple, au physique, au céleste, au sens de la physique céleste, etc. Et donc, dans l'époque dans laquelle nous sommes, quel peut être effectivement le statut du poète qui, je reprends ce qui a été dit par tous celles et ceux qui m'ont précédé, résulte d'abord et de la fonction, mais surtout de ce que nous produisons. Voilà, le statut du poète n'est qu'une résultante, n'est que quelque chose qui finalement peut-être nous échappe beaucoup, parce que c'est la résultante d'une quantité d'autres processus qui nous dépassent de beaucoup.
D'accord. On a presque parfois l'impression qu'on a presque fini la table ronde, mais je voudrais quand même relancer sur une chose. En vous écoutant tous, on est en train de glisser, si je comprends bien, du statut à la fonction. Et de la fonction, je me demande si on n'a pas aussi à interroger du même coup la question de la situation. Situation du poète, situation du poète dans la société, finalement. Hein. Situation également de la poésie dans la société. Jean-Michel, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un objet flou. Mais une des questions qui se pose, c'est par exemple que... Enfin, si on se pose cette question-là, c'est tout simplement parce qu'on est en train de se poser aussi la question de est-ce qu'un poète, ça existe encore, du point de vue de la société. Est-ce que, bon, Gabriel, parlant de veilleur, je suis entièrement d'accord, hein, est-ce que ça existe encore, je veux dire par là, est-ce qu'il y a encore des gens pour entendre cette situation-là? C'est ça, hein, Vox Clemens in Desertis, bon, ok, je suis une voix qui crie dans le désert, on a tous envie de jouer à Jean-Baptiste, sauf que Jean-Baptiste, quand il perd la tête, il perd la voix en même temps. Et on préférerait rester un peu plus longtemps vivant. Mais je pense qu'il y a, je pose à ce moment-là la question, effectivement, la situation de la poésie. Hein, je ne sais pas ce que...
Mais ça, c'est une question fondamentale, mais en même temps, moi, je me reconnais mal, évidemment, mais comme la moitié des poètes, en fait, on a un problème avec ce terme. Si tant est que je sois un poète, parce que je me mets dans la moitié, donc oui, c'est compliqué, tout ça. Mais moi, je continue à penser qu'en fait, il y a une sociabilité poétique, littéraire, et c'est vraiment elle, à mes yeux, qui fonde le statut. C'est-à-dire que les gens qui font des lectures ou qui assistent à des lectures, les gens qui font des tables rondes, les gens qui sont au marché de la poésie, qui publient dans des collections, dites de poésie, donc en fait, créer une sorte de géographie statuante, et moi, il me paraît, enfin, c'est comme ça que je reconnais un poète. Parce que moi, enfin, en ce qui me concerne, les livres que je publie, ça ressemble à rien. Enfin, je sais, ou alors ils ressemblent à la poésie que j'ai inventée moi. Mais moi, j'ai publié un bouquin chez Opuf, mais qui est une sorte d'essai, mais en même temps, c'est pas un essai. J'ai publié un livre sur le rock'n'roll, qui est en même temps un livre un peu bizarre, enfin, etc. Donc avec des principes d'écriture qui sont des principes d'écriture plus formels, etc. Mais c'est pas avec mes livres, je pense qu'on va décider ce que je suis. C'est parce que c'est dans mon fonctionnement sociologique et de sociabilité. Je pense qu'il y a des gens... moi, par exemple, je vais très peu, je vais quasiment plus assister à des lectures. Bon, pour des raisons voilà, diverses et variées. Mais je pense qu'assister à des lectures, et je l'ai fait beaucoup, hein, j'ai eu une revue dans les années 90-2000, donc j'étais au cœur d'une sociabilité particulière qu'on avait aussi inventée. Donc là, le statut du poète, il devient assez clair, il devient lisible. Parce qu'on est dans des lieux, dans des géographies, dans des espaces géographiques et même temporels, en fait, qui correspondent au fonctionnement de la poésie, de la société des poètes. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit les œuvres qui puissent donner un statut.
Oui, je suis très d'accord avec ça. Je voulais juste reprendre. Moi, je me disais, j'aime bien... Là, c'est bon, oui. J'aime bien le jardinier qui s'appelle Gilles Clément, et quand il écrit « Toujours la vie invente », il y a quelque chose de cet ordre qui est proche des graminées qui trouvent place au bord des décharges, quand il n'y a plus de place dans nos jardins de magazines, quoi, avec du gazon goulu d'eau. Et je pense qu'il y a ça, et le fait, là, je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que dit Laurent, et c'est très important, mais je pense qu'on est à un moment où l'éclatement fait même éclater presque le mot peuple, et qui devient une multitude. Et dans cette fragmentation absolument du paysage populaire, nous tous, quoi, et l'éclatement de la sanctification un petit peu de la culture occidentale, qui est en train d'advenir pour notre grande joie et pour notre future intelligence. Il se passe en ce moment, justement, en Afrique subsaharienne, des choses étonnantes d'un point de vue. Ils ont institué un parlement des mots, des choses qui sont absolument exaltantes de jeunesse. Et je pense que cet effritement très 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 bénéfique et qui nous semble très angoissant, puisque on est avec une unité d'un peuple, par exemple, on peut avoir encore ou une idéologie ou une lutte. Là, on est dans l'angoisse de la solitude dans la multitude. Et j'ai l'impression que le peu que puisse faire le poète, qui fait quand il fait. Et ça, c'est vrai, parce que moi, je le ressens. Alors, c'est-à-dire que tout ce qui est abominable n'empêche pas le délice formidable que j'ai à me répéter une phrase de Proust ou un vers de Rimbaud. Et ça n'empêche pas que je me la dise avec la même joie sans cesse. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de livres ou non pour ça. Moi, j'aime le livre. Mais je sais que ça ne peut pas partir. Mallarmé disait un truc très, très bien. Et là, à un moment, Jean-Michel a dit c'est les bords, les contours de ces mots sont flous. Et c'est peut-être là que tremble la poésie. De même que Mallarmé disait « Qui parle dans le poème ?» Et il disait « C'est le néant du mot qui parle. » Or, je me demande si on n'est pas aujourd'hui en train de se poser une question générale et magnifique qui serait le statut de la parole. Voilà, et qui touche beaucoup de domaines, dont évidemment la poésie.
Oui, non, mais là, on entend là, oui. Enfin, il me semble qu'on peut rebondir sur plusieurs questions, c'est-à-dire que le statut de la parole, bon, pareil, la parole dépend de l'endroit où on la profère, de la personne qui la profère. Pour revenir au poète et à la poésie néanmoins, ou à la parole du poète ou de la poésie,
la parole en général, hein, pas la parole du poète. Je pense qu'on est à la fin de l'Empire romain, quoi. Je pense que voilà, on en a fini
là,
avec le logos.
Je serais assez d'accord, mais
et voilà, ça a été magnifique, ça a été un temps, mais je pense que c'est la fin, que tout n'est pas comme le pensaient les Grecs merveilleusement formulable, et que le poème s'intéresse à ça, à ce qui impensable mais possible.
Oui, mais ça renvoie donc effectivement à un état de société. Tu parles encore. Je reviens sur ce mot flou parce qu'il m'intéresse beaucoup. Un état de société qui lui-même est flou. Et lui-même est flou d'une part. Et d'autre part, parler de la fin de l'Empire romain, est-ce que ce n'est pas du même coup poser en question ce qui, pour moi, représente une des données essentielles de la fin de l'Empire romain? L'abandon d'une certaine, enfin pas l'abandon, la disparition pendant un certain temps, même si ce n'est pas tout à fait vrai, d'un système éducatif, d'un système culturel, d'un système social, etc. Or, je ne peux pas m'empêcher pour ma part de penser, peut-être du fait de mon statut de prof, et là je vais parler de statut de prof, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'effectivement, une des questions qui se posent de la parole, c'est que la parole, nous ne la prenons pratiquement qu'à l'école. Nous n'apprenons qu'à l'école, dans des structures très figées, dans des formes extraordinairement figées, enfin, en tout cas pour ce qui est des profs de lettres. Hein. Nous l'enseignons de façon très particulière, très, très bloquée. Et que c'est pas, est-ce que ce n'est pas cela déjà qui est en train de chuter? C'est-à-dire que...
Ben enfin, là, on parle de l'école, c'est une autre histoire. Hein. Moi, je ne parlais pas du tout de l'école parce que je n'y suis pas autorisée. Et sont des choses, à mon avis, très différentes d'apprendre à des gens à vivre à l'intérieur d'une société donnée, ce qui est un peu la fonction de l'école, avec une langue donnée, et de dire attention, les frontières de cette langue sont probablement plus loin qu'on ne le croit, et faites-les trembler. Parce qu'il y a des gens qui n'y ont pas accès, parce qu'elle est... La parole est confisquée. La littérature aussi est confisquée. Or, Dieu merci, aujourd'hui, on s'aperçoit que malgré les immenses avancées allées jusqu'à... La poésie n'existe pas, ou n'importe, jusqu'à des gens formidables, on s'aperçoit qu'avoir balayé réellement devant sa porte a permis qu'aujourd'hui, des tas de formes qui peuvent paraître très simples, de la narration, a le droit de revenir. Elle n'avait plus le droit de citer la narration. C'est que tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de tripoter comme frontière ? À qui je parle, même si je ne le connais pas ? Vous parliez du chant, c'est ça. J'ai envie de faire, dans le fond, je reçois une perception, je l'amène jusqu'à la sensation, et j'ai envie de la rendre à nouveau en perception, quoi. Et c'est pour ça que l'arbre a le droit de se taire, mais moi, je n'ai pas le droit de me taire. Parce que je ne suis pas un arbre, parce que je ne peux pas donner de l'ombre, je ne peux pas faire du bois pour faire du feu, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas caresser le ciel. J'ai le droit au chant, entre guillemets. Hein, le chant peut être comme dire un beau, hein, c'est au lime. Le haut lyrique, mais lime, la limite. Et deux vers après, il parle de couac. Donc le chant, il a toutes les harmoniques qu'il veut. Hein. Voilà. Mais, bon, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à quoi que ce soit.
C'est bon? Quand Caroline parle de, et vous parlez tous de cette question de la fin de l'Empire romain, etc. Mais moi, je me demande si finalement. Alors, c'est un constat et c'est aussi parfois une sorte de regret. J'ai l'impression que la poésie, la crise de la poésie, en fait, est constitutive de la poésie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de crise dans la poésie, il n'y a plus de poésie. Donc, il y a toujours une espèce de résistance au monde et au langage du monde. Et que sans crise de la poésie, je crois que la poésie n'existerait plus. Donc, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de corps souffrant, quoi. Et alors, c'est là où moi, je suis un peu en retrait, c'est qu'en même temps, il y a une complaisance à la misère. Et moi, je ne me reconnais pas là-dedans. On est poète, donc on est les miséreux de la littérature, de l'art, etc. On est les petits. Moi, c'est tellement puissant, c'est tellement grand, c'est tellement plus grand que tout, quoi. D'écrire un poème, enfin d'écrire, etc. Et donc cette espèce de statut à la fois très productif d'être dans un statut de crise et en même temps d'être dans une sorte de... C'est presque... Il faut baisser la tête, quoi. Il y a presque une honte
alors,
à être
alors
poète.
Alors qu'on est les jouisseurs de la littérature.
Oui. Et moi, c'est ça qui me pose un peu problème. C'est qu'en même temps, cette crise, elle peut ressurgir sur l'idée qu'on se fait du statut. Je ne sais pas si... voilà. Mais... baisser la tête, c'est-à-dire être soumis à un statut de défaite, mais je dirais par essence. Et moi ça me révolte, parce qu'en même temps, il y a aussi un certain nombre de poètes en fait, qui se complaisent là-dedans, selon l'axiome un peu, à mon avis, complètement cloche, si on n'est pas connu, si on ne vend pas, etc., c'est qu'on est génial. Et ça ne marche évidemment pas comme ça. Non, mais c'est vrai, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, dans cette espèce de... c'est anti-nietzschéen, c'est-à-dire que c'est en fait, il faut surtout pas avoir d'ambition, il faut surtout pas être connu, il faut surtout pas être reconnu. Si on publie, il vaut mieux publier dans des trucs crypto, etc. Et je parle pas je porte aucun jugement de valeur sur ces outils de publication, etc. Mais cette espèce de complaisance au mineur, quoi. Ouais, alors mineur.
Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel, là sur ce cette dimension, enfin, de... Parce qu'en même temps, ce que définit Jean-Michel, c'est une espèce de vision du poète qui est en partie héritée des romantiques. Hein, ces dimensions-là. Or, le problème, c'est que les romantiques écrivaient sur un monde en ruine et que nous, le monde, il n'est pas encore en ruine, mais c'est nous plutôt qui sommes en ruine, j'ai l'impression, par certains côtés. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça représenterait ?
Le monde a toujours été en ruine. Le monde, il suffit d'interroger les anciens. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je donnais un cours et Montaigne, déjà à son époque, pensait que son monde était en ruine. Hein. Il se disait, ben voilà, mes contemporains aujourd'hui, et ça date de l'époque de Montaigne. Et quand on va encore beaucoup plus loin, Platon disait que l'éducation des enfants, à son époque, était quelque chose qui ne relevait plus de ce qui était avant auprès d'eux. Non, le monde a toujours été en ruine. Moi, je crois que cette question, à moins de faire la psychanalyse de l'œuf ou la psychanalyse de l'arbre, on n'y arrivera jamais. Le plus important, me semble-t-il, c'est de se dire, moi j'ai dit tout à l'heure que le poète est un être qui doit être vigilant par rapport aux fléaux qui traversent la société, vigilant par rapport à ce qui l'entoure. Et il doit être au voisinage, je parlais de la simplicité d'être. C'est dans la simplicité d'être au monde que l'on atteint immédiatement le cœur de l'autre. Le poète n'a d'autre fonction, si fonction il y a. Moi, il y a l'école ou pas, est-ce que l'école a bridé la poésie ou pas, ça je n'en sais rien. De là où je suis né, moi je bénéficie de deux langues, je bénéficie de deux mémoires. Je suis né dans une société où les gens ne parlaient pas la langue française. Ils m'ont appris à nommer le soleil, à nommer l'étoile, à nommer ce vent qui caresse les arbres ou cet arbre qui caresse le vent, à nommer l'être, à nommer le rire, à nommer... Et c'est ça qui m'a donné la part de l'émotion que je porte en moi qui me permet de dire à l'autre, fais attention. C'est ça la fonction de la poésie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise « Fais attention à toi » ou « Je pense à toi » pour vivre. Mais la fonction de la poésie, c'est cela. C'est de rappeler à l'humain la part de la fragilité de l'existence. C'est cela qui est fondamental. Le poète n'a pas besoin d'être connu ou pas connu, d'être... Non, il est à sa place. Cette place est une place infime, comme l'oxygène, comme l'eau. Hein. L'eau, l'élément fondamental de la vie, il n'y a rien de plus simple que la molécule de l'eau. Et pourtant, c'est de là. Et la parole poétique, elle est là pour rappeler à l'humain que malgré tout, malgré la connaissance, malgré tout ce qu'on traverse, malgré tout ce qu'on a traversé, tout à l'heure, on citait Mallarmé, ce grand poète mal nommé, Mallarmé. Le Mallarmé qui disait le I coloré dans la poésie, ça lui suffisait. Hein. Il y a Heisenberg. Heisenberg, voilà un grand physicien qui observe comme cela les électrons, c'est-à-dire la partie la plus infime. Et il a dit deux choses dans sa vie. Le simple fait d'observer un électron modifie sa trajectoire. Et plus loin, il se rend compte qu'ayant traversé tout ça, ayant vu, ayant cherché lui, l'infini de l'univers, puisque c'est cela, il se rend compte que finalement, les poètes l'avaient compris avant lui. Et il dit par une phrase qui reste célèbre, Heisenberg le dit, ce dont on ne peut parler, il faut essayer de le dire tout de même. Et ce dire-là viendra que de la poésie. La poésie est là. Pourquoi de la poésie? Parce que la poésie n'a pas besoin de concepts pour atteindre l'infini de l'univers. C'est quoi l'infini de l'univers? C'est le battement du cœur, tout simplement. On peut le chercher beaucoup plus loin. C'est le battement du cœur. Alors, la poésie a pour fonction justement pour atteindre ce bruit du cœur, puisqu'on est dans un vacarme, vous voyez, on parle dans un vacarme permanent. Le poète est celui qui doit fuir ce vacarme pour se rapprocher de la musicalité de l'univers. Et cette musicalité de l'univers, ce n'est pas en tendant les télescopes vers Mars ou je ne sais quelle autre planète, mais en réentendant ce qui nous est le plus intestin. Ce qui nous est le plus intestin, ça dit le battement du cœur. Et pour entendre, pour voir la lumière de ce battement du cœur, pour faire éclore les bulles d'émotion que ça nous suscite, il faut tout simplement sortir du paradigme intelligence-émotion. Ce qui est important chez l'humain, et ça je l'ai appris non pas sur le banc de l'école, mais auprès de ceux qui m'ont appris à parler. Donc cette première mémoire que j'ai, la mémoire originelle, celle que je porte, avant d'avoir appris la langue française, ma mémoire seconde qui permet de faire la géographie ou de dialoguer avec mes collègues, ils m'ont appris que le plus important dans la vie n'est pas d'être intelligent, parce que l'intelligence est quelque chose que l'homme peinera toujours à essayer d'atteindre. Or, la part de l'émotion, c'est ça qui est le plus important. Donc, il faut apprendre à l'autre à réentendre sa part d'émotion, parce que l'émotion, c'est notre première peau. Le cœur qui bat dans le langage de l'émotion. La rose n'a pas de pourquoi, j'aime ou j'aime pas. Ce bruit du lion qui me fait, il n'y a pas besoin de comprendre quel est le bruit du lion. Ce coucher de soleil, donc cette émotion, c'est ça qui nous permet de faire battre le cœur. Donc, l'émotion est notre premier sang, notre premier neurone, notre première intelligence qu'il faut faire avec. Et le poète est là pour rappeler cela. Ce qu'on fait tous les jours de manière tout à fait mécanique. Ah, j'ai pensé à toi ce matin, fais attention à toi, prends soin de toi. Mais on n'a pas besoin de ça pour vivre, mais on a besoin de ça pour l'entendre, parce que c'est ça qui garantit la part de l'humain dans sa spiritualité d'être au monde.
Merci. Oui. Je crois que Wittgenstein vient de recevoir une claque. Oui, 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 oui. On est bien d'accord?
Oui, bien sûr. Mais... Wittgenstein,
Non, mais Wittgenstein a fait son temps. Il était avec son temps comme Heidegger, d'ailleurs, ces deux-là, hein, voilà, que réinterroge d'ailleurs Alain Badiou dans son dernier ouvrage « Que pense la poésie ?» Oui, bon.
Bien, Laurent, rebondir là-dessus.
Ben, c'est très bien, j'approuve.
Certes, mais alors, comme je disais, la table ronde est en train de se raccourcir sérieusement.
Il y a juste pour dire un peu différemment, mais c'est pas moi d'ailleurs qui le dit, c'est il y a un très beau livre de Patrice Laureau qui s'appelle merde. Ah, c'est horrible, je viens d'oublier c'est le nom. Grave, alors oui, il dit il y a un chapitre qui s'appelle Aristote ne rattrapera jamais Rimbaud. Parce que Aristote, comme un bon philosophe, c'est-à-dire une intelligence exceptionnelle, va fabriquer des ponts. Et pendant que Rimbaud bondit, donc il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de préliminaire chez Rimbaud. Mais or, chez le philosophe, il y a, quitte à se noyer dedans, des préliminaires à n'en pas finir, des ponts. C'est absolument passionnant. Moi, j'adore lire de la philosophie. Mais... ça m'énerve d'avoir oublié ce nom parce que c'est un livre, c'est un trésor pour justement les gens qui aiment la poésie. C'est de la philosophie, mais et voilà quoi. Donc c'est un peu aussi une autre manière de dire on n'est pas dans le même univers physique quoi presque.
Oui Laurent.
Oui, je vais quand même dire quelque chose. Je pense qu'on doit refuser de prendre les places qui nous sont assignées. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de poésie, je parle de contexte français. Si on va en Suisse ou si on va en Inde, la question sera différente. Mais nous sommes, nous, dans un système de civilisation dans lequel il y a une séparation entre les scientifiques, les littéraires, entre l'intelligence et l'émotion, etc., etc. Et une raison pour laquelle je sursaute quand je me fais traiter de poète, c'est que je me trouve tout de suite assigné à un endroit dans cet univers-là, et c'est une place dont je ne veux pas. C'est-à-dire que la question... Et là, c'est vraiment une question de statut du poète. C'est-à-dire que ce statut que l'on veut te donner correspond en fait à une division du travail dont je pense, dont je sens pour ma part qu'elle pue la mort. C'est immortel. C'est-à-dire que ce qui est en question dans l'être, pour reprendre le mot d'Okonji, c'est pas simplement une question de présence au monde, etc. Ça, c'est vraiment totalement fondamental. Mais c'est aussi pour moi le grand enjeu, c'est celle de l'unité de l'être. C'est-à-dire, je refuse le divorce entre scientifique et littéraire. Je refuse les divorces qui divisent la société, qui la mettent en partition, qui répartissent les gens dans des rôles, justement dans des statuts. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est profondément anti-poétique, c'est-à-dire qui empêche d'écrire la poésie, ou si tu préfères, qui t'amène à écrire toujours la même poésie, qui, comme par hasard, est celle qu'on attend. Et on vit quand même dans une époque tout à fait extraordinaire, puisque justement, en ce moment, il s'écrit des quantités de poèmes tout à fait différents les uns des autres, et qui brisent ces distinctions qui sont opposées, ces apartheids, qui sont vécus sans même qu'on y songe, tellement ils ont été incorporés, tellement ils ont été adoptés. Tu disais tout à l'heure, Caroline, que aujourd'hui, par exemple, de nouveau, la narration est possible. C'est énorme. Et ça, évidemment, il y a plusieurs poètes, écrivains de poésie, je préfère dire, qui sont passés par là et qui l'ont rendu possible. Parce qu'à un moment donné, on le lit et dit « Ah, bah oui, en effet ». On prend encore un autre exemple voisin, celui de l'épopée. Aujourd'hui, l'épopée est de nouveau beaucoup plus possible parce qu'on a Nazim Hikmet qui a écrit des épopées, parce qu'il y a Ivar Shvavar qui écrit aussi des épopées à sa façon. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des poèmes de cet ordre-là? À ce moment-là, on a différentes provinces de l'être qui sont réunies et qui donnent à cette parole sa puissance. Donc, je veux bien qu'on discute du statut de poète, mais à condition, pour commencer, de casser cette fabrique à faire, à cette mécanique à fabriquer des statues dont nous ne voulons pas.
Mais parce que peut-être, je vais rebondir à mon tour, peut-être parce que, en effet, parler de statut de poète, c'est finalement revenir à cette question de la définition. Tu dis, on a eu des épopées parce qu'il y a eu Nazim Hikmet, il y a eu aussi Saint-Jean Perse, et puis il y a eu quelqu'un qui, pour moi, était un maître absolu, à savoir Édouard Glissant. Et je pense au terme de relation qui me hante depuis tout à l'heure, bien entendu. C'est finalement ça, également, cette question de maître en relation. C'est-à-dire, bon, Caroline, tu disais, on retourne au récit, mais qui a dit qu'il n'y a jamais eu de récit? Qui a dit que le coup de dé, par exemple, n'avait pas une dimension de fictionnalisation et de récit? Hein, c'est nous qui avons décidé, par certains côtés, par nos limites, etc., par nos façons de voir, par notre époque, parce que si nous voulons être des veilleurs de notre époque, nous sommes aussi en même temps modelés par notre époque. Et effectivement, qu'on suit à un moment ou à un autre les cases où il nous met. Je pense qu'on est tous un peu d'accord pour dire on veut bien être poète à condition que vous vidiez le mot poète du sens que vous lui prêtez. Ce qui, évidemment, rend la chose un peu complexe. Mais non.
Oui, non, mais j'ai assez parlé. Notre identité. Moi, tout à l'heure, tu m'appelles Okunji, tu m'appelles Gabriel, d'autres m'appelleraient Mouenin. Je ne suis pas né comme ça en disant, moi, je m'appelle Gabriel Okunji. C'est d'autres qui m'ont nommé. Hein, et je porte cette nomination toute ma vie. Il n'y a qu'une seule personne au monde, enfin, je ne sais pas si elle existe réellement, j'ai vu un jour qui se lève un matin, qui dit, je m'appelle Kirikou. C'est le seul que j'ai vu dans ma vie, qui se lève et qui s'auto-nomme. Donc, c'est d'autres qui donnent notre identité. C'est pour cela que ce qu'on dit là relève tout à fait d'une parole commune. On nous a attribué l'identité de poète. Le méritons-nous, ne le méritons-nous? Est-ce que nous le méritons? Est-ce qu'on ne le mérite pas? C'est dans ce... Voilà. Et à partir de là, quelle part de vigilance on peut observer pour ne pas tomber justement dans l'écueil dans lequel on veut nous enfermer?
Et moi, c'est l'identité de poète. Déjà, l'identité est une chose très fragile dans mon cœur. J'ai l'impression d'être en deçà de l'être. Moi, je ne suis pas passée à Parménide, je suis restée à Héraclite. Et franchement, parfois, je me sens mieux en étant comme les Inuits, des yeux, des oreilles, mon entendre, mon voir, etc. C'est plus avec ça que je travaille qu'en étant... je ne sais pas ce que ça veut dire être. Je sais bien ce que ça veut dire avoir mal, avoir doux, avoir entendre, être charmé, enfin, mais être, cette unité me blesse, elle me semble despotique. Je pense que déjà, on a le privilège et le danger de travailler avec une langue. Une langue, c'est un instrument du pouvoir aussi. C'est un de nos gros boulots de veilleur, justement, que notre langue ne soit pas despotique. Et elle l'est. Il y a un pouvoir d'injonction du mot que n'a pas forcément l'image, qui peut avoir d'autres destructions. Hein, mais voilà, donc l'identité de poète, je ressens pas ces mots en même temps. Voilà.
C'est peut-être aussi une question de langue, hein, parce que quand tu parles d'être, effectivement, c'est le problème du verbe être en français. Mais il y a des langues où il y a deux verbes être. Je pense au portugais, ser et estar, qui permet d'échapper à l'immobilisation du verbe être, effectivement. Je pense aussi. On arrive sur la fin. S'il y a des gens dans la salle qui ont envie de poser des questions ou d'interpeller. Voilà. Ben, Yves, à côté de toi. Ah bon ?
Oui. Alors j'ai l'impression de un peu marcher sur les eaux, les œufs, pardon.
Oui. Les œufs aussi, si vous voulez. Hein. Ah, ça oui. Finira mal, mais tant pis pour vous. Hein.
Oui, parce que j'ai l'impression, toute petite, que la poésie marche un peu à côté de ses pompes, dans le sens suivant. Quand on regarde Vermeer, qu'on regarde Rodin, qu'on écoute Baudelaire, on est porté, grâce à eux, à passer du fini à l'infini et du matériel au spirituel. Et je pense que la poésie, comme tous les autres arts, sont vraiment eux-mêmes quand ils nous font passer du quotidien à l'infini. Et que s'ils ne le font pas, c'est un peu des bonbons, c'est pour les jours qui passent, ça fait plaisir à l'instant, mais ça mène pas loin.
Moi, j'aime bien, excusez-moi, je vous réponds juste une chose, j'aime beaucoup que les mots tombent justement de la puissance divine vers les gens et les choses. Hein? C'est-à-dire le moment où Héraclite, toujours lui, fait tomber du Panthéon d'Hésiode les mots, tout le monde, les magnifiques statues des dieux et des choses qui avaient chacun un dieu, chacune un dieu. Et je suis d'ailleurs assez proche de ça. Mais, et quand tout d'un coup, on voit les mots tomber vers les gens, tomber vers le commun des mortels. Ça, c'est Héraclite. C'est Héraclite qui invente le mot communiquer au sens très fort, comme ça. Et donc, je dirais presque l'inverse de vous.
Pour moi, la poésie ou les mots, c'est une relation personnelle entre le mot et la personne qui le lit ou qui le prononce. Ça dépend de son vécu, ça dépend... Parce qu'un seul mot, on peut lui attribuer beaucoup de sens. Et c'est comme un tableau. Vous parliez d'émotion, mais je pense que l'émotion est personnelle. Et la relation entre les mots, le tableau, la poésie, un texte, elle est tout à fait personnelle. Et la définition est peut-être plus du côté de la relation entre ce qui a été fait, exposé, ou dit, ou lu, et l'individu.
Je vois, Gabriel, tu as peut-être envie de répondre à cette...
Non, mais c'est... Moi, je pense que le poète dit, hein, puisque j'ai toujours dit que une parole dans un livre, c'est du surgelé. La poésie, c'est du dire, hein, c'est du chanter, c'est du slammer, puisque le mot existe maintenant. C'est ce que j'ai toujours entendu autour de moi lorsque j'étais... voilà. Et le poète, lui, il dit des choses dont lui, peut-être qu'il lui échappe à lui-même. Il montre le chemin. Et c'est celui qui a suivi ce chemin-là ou qui croit pouvoir le suivre dans sa relation au mot, à la parole entendue, à la lumière et aux bulles d'émotion qu'a fécondé ce mot, qui bâtit son propre chemin. Vous savez, ceux qui m'ont appris à respirer, hein, puisque c'est à 40 ans, ou un peu avant 40 ans, que j'ai été apprendre à respirer. Oui. Et lorsqu'ils me disaient « regarde ça », on regardait un arbre, on regardait parfois, on écoutait, et je disais « mais oui ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Oh, mais j'ai vu tout. Ah oui, c'est que ça doit être ça. Ah bon? Mais j'attendais qu'il me dise autre chose. Non, ce que j'ai vu suffisait par rapport au doigt qu'il m'avait désigné ou dans l'écoute. C'est exactement ce que, puisqu'on cite les peintres, Vermeer, je ne sais plus quel autre on a cité.
Rodin.
On peut citer Paul Cézanne, par exemple. Cézanne. 2 ans avant sa mort, à la grande exposition qu'il lui avait consacrée, il cite cette phrase, mais vraiment, qui m'a toujours marqué. On vient le voir, alors c'est un grand maître qui est célébré. Et on lui dit, alors, qu'est-ce que ça te fait? Il ne savait pas que dans 2 ans, il allait mourir. Mais il était là, face à cette grande exposition, adulé, porté par tout le monde. Et la modestie de la réponse qu'il avait donnée, alors, Paul Cézanne, que pouvez-vous dire par rapport à cette grande exposition qui vous est consacrée? Il dit, je crois que je fais de lents efforts. Voilà. Et 2 ans après, il est parti.
Et il dit aussi un truc magnifique sur la poésie, Cézanne. Il dit, la poésie est un objet difficile à ramasser. J'aime bien que ça suffit.
Donc, elle est vraiment tombée.
Oui, je voulais vous remercier tous pour vos points de vue différents, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Et bon, moi, je ne vais pas statuer sur le statut du poète. Je ne suis pas capable, mais par contre, au sujet de la fonction du poète, selon mon point de vue, c'est avant tout un interprète. Un interprète de l'invisible, de tout, dans le sens divin, on va dire. Bon, pour ceux qui ne croient pas au divin, on peut dire l'univers. D'ailleurs, Gabriel a parlé d'Heisenberg, c'est vrai que c'est le regard en fait du poète qui va créer, qui va manifester ce qui est, il va le rendre existant. tout ça, c'est pour résumer, pour moi, c'est un interprète, le poète. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'aurais voulu...
comme un traducteur, une antenne de l'invisible. Et il va montrer, en fait, quand je dis l'invisible, pour être concrète, c'est toutes les valeurs. Parce que ça, c'est pas concret, des valeurs. Les valeurs, la beauté, l'amour, la justice, toutes ces belles valeurs, elles font partie de l'invisible. C'est pas du concret. Mais le poète va les transcrire. Il va les donner à voir.
Moi, pour revenir encore, toujours au, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous aussi, monsieur, pour moi, l'écriture, au sens large, c'est toujours d'abord une expérience individuelle. Et c'est quelque chose... Moi, je désavoue complètement le statut fantasmé du poète oraculaire. Moi, j'écris pas pour le monde, j'écris pour moi. On est très égoïste quand on écrit. Hein. On essaie juste, comme vous dites très, très justement, de transformer de l'individuel en universel, quand ça marche. Pour moi, c'est ce que je demande à l'art, hein, qu'une histoire individuelle, qu'une blessure individuelle, un émerveillement individuel, et là je vous rejoins, en fait, parle au plus grand nombre. Au plus grand nombre, et aussi en termes diachroniques, c'est-à-dire qu'une histoire individuelle, en fait, soit encore valide dans un siècle ou dans deux siècles. C'est pour ça qu'en fait, les grands poètes, les immenses génies dans la poésie ou dans l'art ou dans la musique, etc., ils nous parlent 2, 3, 4, 5 siècles après. Ça, c'est une œuvre réussie au sens ontologique, enfin, au sens métaphysique presque. Hein. Et moi, j'ai eu une... je me rends de plus en plus... l'âge venant, je me rends de plus en plus compte à quel point cette... ça n'engage que moi, ce que je dis là. Hein. Moi, j'écris pour moi. C'est qu'il y a un rapport très égoïste, alors par la langue, hein, évidemment, qui est, la langue appartient à tout le monde, elle est universelle. Hein. Moi, j'ai été frappé par une série de décès très proches, ces 5 dernières années, et j'ai voulu écrire une sorte de journal de deuil, hein, pour reprendre le titre de Roland Barthes, parce que pour moi, c'était la seule possibilité de survivre à tout ça. Et c'était la seule façon pour moi d'avoir un monument, hein. Toujours pardon de reparler toujours de Roland Barthes, je suis pas plus, mais bon, il se trouve que Roland Barthes, il parle du monument, le monument funéraire, hein, mais le monument virtuel. Et moi, le monument, en fait, qui était proche de ses décès, en fait, c'était l'écriture, c'était dans mon ordi le matin quand j'ouvrais mon dossier journal de deuil. En fait, c'était la seule façon pour moi de me retrouver et en quelque sorte finalement de sortir de ce deuil. Et alors voilà, est-ce que cette expérience très individuelle, très, très personnelle et très secrète pourra parler à d'autres personnes et dans d'autres temps? Voilà, je pense que si on réussit cette double, enfin cette espèce de d'articulation, on a réussi son boulot, quoi. Voilà.
D'autres questions?
Non, pas encore. L'an prochain.
Ça m'intéresse. Hein.
Oui, 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 oui. Ah oui, bien, oui, c'est aussi une adresse,
oui,
bien sûr,
oui,
bien sûr.
Oui, mais ouais. C'est toujours l'adresse après dans le deuil.
D'accord. Même le plus intime finalement fait geste. Mais moi, quand je vais ramener les choses un peu au ras des pâquerettes, parce que je vous entends, je suis venue vous entendre, et puis je suis ravie qu'on nous donne la parole. Mais je vous vois également et je vois le décor qui vous entoure, ou plutôt qui vous prend. Et quand je vois ce qui est derrière vous, je vois marcher et je vois CNL, Centre National du Livre. Et donc pour moi, ça y est, la définition du statut, il est là. Elle est là, cette définition. Ce statut, il est là, que vous le vouliez ou non, à partir du moment où l'on est publié, où l'on cherche à être édité. On entre dans un statut, on entre dans un circuit, tout comme moi qui suis une modeste scénariste, lorsque je vais vendre mon scénario, eh bien, je fais acte de commerce et je rentre dans un statut de futur scénariste qui sera porté peut-être à l'écran et qui peut-être recevra des droits et qui peut-être aura du succès et peut-être sera vu, etc. Donc je pense que la question que l'on a, qui nous a un peu réunis, il me semble, que quand on parle du terme de statut, on parle du terme de statut. Le statut a toujours une connotation juridique. il a toujours une connotation sociale. Après, moi, je suis ravie que l'on ait évacué ça et que l'on parle essentiellement du sens, de l'identité, de la place du monde, de notre regard sur le monde qui est essentiel. Parce qu'au fond, la poésie, elle n'est pas que dans les mots, elle est dans le regard du monde qu'a un cinéaste, qu'a un écrivain, qu'a peut-être un sculpteur, qu'a un peintre, forcément. Donc c'est tout geste artistique qui est empreint de poésie. Donc la confiscation de la poésie dans les mots me paraît un peu dangereuse.
Non, en tout cas, pour ce que vous disiez au début, moi, c'est exactement ce que je disais en commençant. C'est-à-dire que la poésie est un objet social. Donc, il se connecte avec le CNL, avec des éditeurs, avec des... Mais ça, c'est très bien. Je ne sais pas si c'est très bien ou c'est très pas bien. Mais c'est l'existence même de la poésie. Sinon,
j'adore prendre la parole. Oui. Je vous coupe parce que après, je vais oublier. Par contre, quand vous dites à un moment que la poésie a une place marginale, etc., moi, j'ai le sentiment... vu mon âge et donc mon histoire d'appréciation, de vécu, de lectrice et d'écriture de la poésie également, j'ai le sentiment qu'au contraire, il n'y a jamais eu, il y a pléthore de maisons d'édition qui s'emparent d'un tout petit catalogue parfois de poésie. Il y a, chaque éditeur pourra vous dire qu'il reçoit des centaines de manuscrits de poésie. Il y a sur le net énormément de sites de poésie qui existent et qui nous permettent avec grand bonheur d'avoir un accès à ce qui se fait et qui n'est pas publié comme ça le jour, la nuit, quand on veut. Et je trouve, moi, qu'au contraire, plus je vieillis, plus je trouve que la poésie prend une place importante dans la vie des gens. Bon, peut-être que je suis optimiste.
Tant mieux, merci. D'autres choses ? D'autres questions ? Bon, ben on va clore sur cette petite note d'optimisme. Ça va faire du bien.
Merci beaucoup, Benoît. Je voulais dire quelques mots parce que c'était notre dernière table ronde aujourd'hui pour ce 35e marché de la poésie dans le cadre des États généraux. Comme vous le savez, si vous avez participé aux premières journées et à notre temps d'inauguration, nous avons annoncé que nous continuerons l'an prochain la tenue de ces États généraux. Donc ils vont travailler encore jusqu'à la fin de la périphérie. Les vacances vont passer, la rentrée va venir, et puis nous allons continuer à mettre en ligne les différents enregistrements de ces tables rondes. Et le mouvement va continuer de travailler la société poétique au sens large pour continuer de construire ensemble cette réflexion générale sur l'état du poème et de la poésie aujourd'hui en France. Donc l'an prochain, on continue, on affinera des thématiques. Cette année, nous avons eu 9 tables rondes avec des thématiques pointues. Et je suis très ému de voir qu'elles ont rassemblé du public et que finalement, ces tables rondes tiennent bien sûr à la qualité des invités qui ont accepté d'y participer, mais tiennent aussi beaucoup à votre présence. C'est-à-dire aussi au fait qu'on sent que les questions que l'on pose trouvent un écho et suscite de votre part des interrogations, un apport de connaissances, un apport d'informations, et la manière dont chacune des tables rondes s'est terminée dans le dialogue, dans l'échange, dans l'interrogation, et dont elles ont souligné que le chemin n'était pas du tout clos et qu'on n'allait pas s'arrêter ce soir à 20h sur l'acquis de ces tables rondes. Cette manière nous fait chaud au cœur, à Vincent, à moi, à tous les acteurs du marché de la poésie, parce que on continue et on va continuer très très fortement.
Mais d'abord, ces états généraux continuent après le marché. Si vous voulez connaître la suite des événements des états généraux et de la périphérie du marché, vous avez ce journal qui est à votre disposition totalement gratuitement. Et puis, il nous reste à remercier nos amis. Qui sont venus pour cette table ronde. Merci à eux. C'était donc la dernière table ronde du marché de la poésie. Mais le programme continue puisque nous nous retrouverons en Europe centrale à 18h. Entre-temps, les éditeurs sont là. Profitez-en puisque c'est vraiment le dernier après-midi.